Radio Okapi. Okapi. Okapi Service. Jeudi Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Quelles sont les conséquences du non-respect des normes de construction des forages d'eau? Alors, comment aujourd'hui on parle, on voit les gens aménagent beaucoup plus de forages dans les quartiers populaires, dans plusieurs quartiers de Kinshasa, je voulais dire. Alors, quelles sont les normes à respecter pour bien aménager votre puits d'eau, etc., et puis avoir une eau de qualité? On en parle dans cette émission avec le professeur Antoine Foumou, expert en hydrologie. Professeur, bonjour. Bien, on va les retrouver dans quelques instants. Vous avez des questions et préoccupations, appelez déjà au 099-706-99-41. Dans la seconde partie de ce programme, nous allons parler des épreuves de la vie. Comment surmonter les épreuves de la vie? Ce sera tout à l'heure à partir de 11h05 heure de Kinshasa avec Dr Julius Elumbu qui est coach mental. Pour participer à cette émission, eh bien c'est simple, composez les 099-706-99-41, écrivez-nous à service@radiokapi.net. Deb Sevita assure la mise en onde de cette émission. Tati Mapoukou est à la coordination et à la réalisation au micro. Jody Daniel Kachama, bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiokapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiokapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion.
Bien, encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Comment peut-on aménager un puits d'eau, un forage d'eau? Vous savez, à cause des difficultés d'accès à l'eau potable, de nombreux Quinois se tournent de plus en plus vers les forages d'eau comme alternative. Il y a quelques années, ces puits se retrouvaient seulement dans les quartiers périphériques. Aujourd'hui, on les retrouve dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa. Et dans de nombreuses parcelles, les gens exploitent les eaux souterraines pour les besoins ménagers. D'autres les vendent même, vendent de l'eau aux voisins qui viennent aussi s'approvisionner régulièrement. Un bidon de 25 litres peut coûter 100 francs congolais ou plus. Alors, l'aménagement d'un forage d'eau doit obéir aux règles de l'art pour avoir une eau de qualité et assurer la durabilité de votre source d'eau. Alors, quelles sont ces règles à observer lorsqu'on aménage un forage d'eau? On en parle avec notre invité, professeur Antoine Foumou, expert en hydrologie. Bonjour, professeur.
Bonjour, monsieur Teddy.
C'est plutôt monsieur Jody. Bienvenue dans cette émission.
D'accord.
Bien, nous voyons de plus en plus les forages d'eau se retrouvent un peu partout dans la ville de Kinshasa à cause des difficultés d'accès à l'eau potable. Alors, qu'est-ce que l'état des lieux, vous pouvez nous faire de l'aménagement de ces forages dans des parcelles dans plusieurs communes de la ville?
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs des radios Okapi. Et effectivement, nous pouvons remarquer que depuis quelques années, il y a implantation de forages à travers si on peut parler de Kinshasa à travers toute la ville de Kinshasa. Et ceci suite aux difficultés d'accès au réseau officiel d'approvisionnement en eau, vu que le réseau d'adduction d'eau est limité et dans certains quartiers, la population n'a pas accès. Et donc, pour couvrir à leurs besoins, la population se prend en charge en développant de forages. Et bien sûr, pour pouvoir construire un forage, il faut respecter les normes que l'État devrait ou a mis en place afin que ces forages puissent répondre exactement à ces normes et ne pas être sujets à d'autres problèmes environnementaux ou être à l'origine de la pollution des eaux souterraines. Donc, parmi ces normes, on peut dire d'abord, dans un premier lieu, il y a les normes à respecter, des autorisations qu'il faut avoir. Et ces autorisations, on doit les avoir au ministère de l'Environnement, la direction de ressources en eau, dans laquelle on doit déposer sa demande. Et l'autorisation est accordée par le ministère des ressources hydrauliques ou, dans les cas des zones rurales, par les ministères de développement rural. Et donc, parmi les éléments que l'on doit avoir dans le dossier, il y a des études hydrogéologiques qui doivent être conduites pour notamment avoir une idée sur la profondeur de la nappe et éventuellement des études hydrauliques pour avoir les débits d'exploitation. Si voilà un peu des éléments que l'on peut avoir dans un premier temps.
Bien, pour arriver d'abord à faire ce forage, est-ce qu'il faut des études pour savoir s'il y a des eaux souterraines dans les quartiers? Comment ça doit se faire d'abord, avant d'aller plus loin?
Et effectivement, pour pouvoir construire un forage, on doit absolument être rassuré que dans l'environnement, on peut retrouver de l'eau souterraine à une profondeur relativement accessible. Mmh. Et pour pouvoir commencer les développements, car la construction demande de moyens. Et cela est lié aussi à la capacité technique de personnes qui doivent réaliser ces travaux. Et donc, on doit se rassurer de la présence de l'eau souterraine dans la zone et aussi de l'endroit où ce forage devrait être placé. Donc ça, c'est parmi les éléments que l'on devrait normalement avoir bien avant de pouvoir se décider de l'implantation d'un forage à un endroit donné.
Ouais, j'imagine que le forage ne doit pas être à côté des toilettes, par exemple, ou voilà. Et quels sont les autres endroits où on doit jamais placer un forage?
Pour construire un forage, on doit se rassurer de la zone immédiate de ces forages. On parle de zone de protection immédiate. Et dans ces zones, on ne devrait pas normalement trouver de toilettes. Ça peut être une zone dans un rayon qui devrait être défini de 50 ou de 100 mètres, avec le centre qui serait le forage implanté. Et donc, dans cette zone, on ne peut pas trouver, par exemple, de toilettes. On ne peut pas trouver de point de collecte des déchets. On ne devrait pas trouver toute activité qui pourrait être à la base de la contamination de l'eau souterraine. Et donc, on doit avoir une cartographie de l'occupation de sol de la zone immédiate de protection du point d'eau. Ce qui n'est pas le cas dans la plupart de nos points de forage à travers la ville de Kinshasa. Mmh.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Roger Ismaël Mumpoyi est en ligne depuis Lubumbashi. Roger Marcel à Kinshasa. Ismaël, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama, bonjour à l'invité.
Quelle est votre question?
Ouais.
C'est une question très importante dont nous traitons ce matin. Mais en tout cas, je vous informe que moi, je suis un opérateur et entrepreneur en forage. Merci beaucoup pour les explications dont l'invité a donné. Mais on peut se poser tous la question de savoir pourquoi aujourd'hui la population congolaise recourt au captage de l'eau souterraine. C'est parce que la régie des eaux a montré ses limites et l'incapacité de production à desservir la population. C'est ça ce qui incite les gens à faire aussi le forage. Là où je suis à quelques mètres de l'usine du Kassap. Mais je vous dis, vous trouverez que une pompe est au niveau du contournement et l'autre seulement on dessert le camp Kimbembe et l'université de Kassab. Mais toute la population qui est ici jusqu'au niveau de l'université, il n'y a aucune robinet. Mais en plus de cela, pour les conditions de forage, parce que nous savons qu'après avoir fait le forage, la distance d'une fosse septique et des consorts, là-bas, on peut aller à 10 mètres, à 15 mètres. Mais cela dépendra aussi d'un endroit à un autre. Mais celui qui a une parcelle restreinte chercherait à s'écuyer de l'eau ou purifier cette eau-là, mettre aussi des dispositions nécessaires.
D'accord. Quelle est la question?
Après avoir fait un puits, nous avons on met le gravier, on appelle là les massifs filtrants. Après le massif filtrant, on met le bouchon barbotine. Après le bouchon barbotine, on met le bouchon d'intanchéité. Les dissimats et les bouchons d'intanchéité et les bouchons hygiéniques. C'est ça dans le cadre hygiénique dans les formes de l'UNICEF. Mais d'autres personnes telles que les Indiens, ils le font selon leur propre gré où ils font les trous de forage. Mais si vous avez par exemple office, maintenant c'est l'office ou service national spécialisé d'eau, on fait un forage adapté selon les besoins d'une personne qui cherche le forage là. Et à même ça aussi les tuyaux de maintenance d'un puits, on a les tuyaux originaux qu'on ne crépine pas avec les scies à main. Ça vient de l'usine. C'est une capacité. Moi-même, je dis que c'est une eau très propre et de qualité si on respecte les normes ou des standards internationaux.
Bien,
de forage.
Vous avez dit qu'il faut.
En plus de cela, oui. La zone.
Oui, ouais. Ismaël, vous dites qu'il faut avoir le massif filtrant, c'est ça? Et ensuite?
Oui, les massifs filtrants. Après le massif filtrant, après les crépines. On met maintenant les bouchons barbotines. Et puis après les bouchons barbotines, on met les bouchons d'argile. Parce que l'argile, telle que selon la structure du sol, de l'eau de la pluie et de l'eau qui vient d'en haut ne peut jamais entrer et passer cette couche-là. Et si on prend cette eau qui vient que ce soit d'une roche ou à un endroit, parce qu'ici nous avons un sol argilé, il est difficile que cette eau qui vient d'en haut puisse pénétrer. Mais le forage, ce que nous constatons, c'est que il y a aussi certaines structures qui font des forages où ils font seulement les trous. Ils mettent du gravier du fond jusqu'en haut là. C'est ça, c'est qu'une c'est ça parfois on peut douter cette eau là.
D'accord.
Mais si on fait
si
un forage dont je vous ai cité des boutons.
Oui. Si je comprends
là, c'est
bien.
Là, une eau appréciable et on peut les consommer sans aucun problème, sans
oui,
aucun
je comprends
incident.
Bien. D'accord. Merci beaucoup. Si je comprends bien, il faut faire tout pour que l'eau de pluie et l'eau de ruissellement ne puisse pas pénétrer dans le puits, dans le forage. On va accueillir Roger Marcel de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, et bonjour à notre. Bonjour à tous les amis de la radio de la paix.
Quelle est votre question, Roger Marcel?
Merci beaucoup pour les thématiques que la radio Capi nous propose. Je pense que c'est à travers la radio Capi qu'on a reçu le DG de la régie des eaux et on a encore reçu le directeur de la ville province de Kinshasa de la régie des eaux.
Bon, aujourd'hui on ne parle pas de la régie des eaux, on parle des forages. Vous n'avez pas beaucoup de temps, allez-y directement à la question. Quelle est la question par rapport au forage, les normes à respecter dans l'aménagement des forages?
D'accord, merci, je dis. Dans mon quartier où je réside, c'est depuis 2018, où on a connu un peu de problèmes pour avoir un peu de l'eau des robinets. Malgré tant de questions qu'on avait posées au DG, même au directeur, il n'y a pas toujours de solution. Je pense que ce sont les systèmes de forage qui se sont beaucoup multipliés dans des quartiers où je réside. Mais à des fois, il y a quand même de l'eau. Quand on part un peu et prendre un peu de l'eau là, vous sentez quand même dans la bouche, vous sentez quand même de l'eau là qui sont sous forme de sel. Hein. Vous n'avez pas même quand même à prendre un peu cette eau là. Je pourrais te demander un peu à l'invité. Et c'est à travers l'eau que nous prenons ça, avec le temps, ça ne devait pas créer un peu de maladie ou bien ça ne devait pas créer un peu de choses, parce que même les petits enfants prennent aussi ça. Je pense que l'invité a pu éclairer. Alors, quand on cherche toujours de faire un puits ou bien de faire un forage, il faut toujours des études. Et ce que nous constatons dans notre pays, quand il y a toujours ce mouvement-là, vous allez voir, on n'a pas consulté les gens. Dans quelques jours, on commence avec le forage. Et puis, la qualité de l'eau qu'on consomme, malgré que nous ne sommes pas du domaine, l'invité va toujours nous donner un peu de vérité ou bien d'éclaircissement sur ça. Je ne pense pas que ce n'est pas vraiment agréable. Je profite un peu que notre gouvernement qui nous écoute à travers ce ministère de l'Environnement et d'autres ministères qui puissent être vigilants dans le terrain, de faire un peu de contrôle. Parce que ce n'est pas vraiment normal quand nous le faisons pour le. Parce que prendre une eau potable, c'est notre droit. Mais quand nous consommons un peu ce genre de l'eau-là, ce n'est pas vraiment du tout vraiment bien. Et les quartiers qui l'aident à travers la radio Capi, et le ministre, quand même, le DG, les autres, elle a pu se répondre à notre demande. Parce que c'est la toute fois que j'interviens toujours sur la radio, parce que c'est toujours cette question-là. On a
bien.
Pas toujours réagi.
D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci, Roger Marcel. Bien, professeur. Roger Marcel veut savoir, est-ce que l'eau de forage peut être consommée? C'est une eau potable. Est-ce qu'on peut la consommer? Et puis, il y a Ismaël Mumpoy qui nous parle des conditions à respecter. Il a parlé du massif filtrant, crépine, les bouchons, barbotines, d'argile, etc. Pour éviter que les eaux des ruissellements, les eaux des pluies ne puissent pénétrer dans le puits. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout cela?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Ismaël vient d'évoquer. C'est vrai, la problématique est liée aux difficultés d'accès au réseau d'approvisionnement en eau de la régie des eaux. Et donc, la population se prend en charge en construisant de forages. Et ce qu'on peut dire, c'est que si les entrepreneurs pouvaient bien suivre les normes telles qu'ils viennent d'énumérer dans la construction de forages, cela ne poserait pas de problème. Mais nous remarquons que la plupart des entreprises, vu qu'il n'y a pas des suivis ou de normes de suivi pour les développements de forage, chaque entrepreneur plutôt, fait le travail à sa façon. Et souvent, il y a les aspects techniques, le rapport technique manque à la plupart des travaux. Or, ce sont des éléments importants que l'on doit utiliser pour une gestion durable de ressources en eau. Et donc, si chaque entreprise devrait respecter dans la construction du forage, par exemple, la mise en place d'une masse filtrante dans la zone des crépines et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'infiltration, de contamination de zones de ruissellement à travers l'ouvrage, sera contribuer grandement à la protection et à garantir la qualité des eaux souterraines. Ce qui n'est pas le cas, et cela s'aggrave beaucoup plus lorsqu'on recourt à la construction de forages de manière manuelle. Et là, il y a beaucoup de défaillances, des déficits, et du fait qu'il n'y a pas un suivi lors de la réalisation de ces ouvrages, les entrepreneurs, ils construisent, ils remettent à l'utilisateur qui n'est pas rassuré de la qualité de l'ouvrage et de la durée de vie de l'ouvrage qui lui a été fourni. Et ça, ce sont des aspects qui devraient normalement être régulés par l'État au travers de ses institutions spécialisées. Je reviens à la question de José Marcel. Effectivement, lorsque l'eau souterraine n'est pas bien protégée, on ne peut pas s'attendre à ce que sa qualité puisse être bonne. Et normalement, on devrait avoir des services de suivi de la qualité de l'eau pour se rassurer non seulement de la qualité chimique, mais aussi de la qualité bactériologique. Et dans les cadres de travaux de recherche, notamment au Centre régional d'études nucléaires de Kinshasa, il y a eu des études qui ont été menées et qui ont permis de voir l'évolution de la qualité de l'eau et même de mettre en lien ce que je venais de dire, les types d'occupation de sol dans la zone de protection rapprochée du fourrage, de mettre en lien l'occupation de sol avec la qualité de l'eau, notamment le lien entre l'occupation de sol et les taux de nitrate. Il est vrai que on peut se rassurer que l'eau est de bonne qualité que lorsque les analyses sont réalisées. Et les analyses ne peuvent être réalisées que à travers des institutions spécialisées qui peuvent faire des analyses physico-chimiques, des analyses bactériologiques et comparer aux normes pour l'eau de boisson, par exemple, et dire si cette eau est potable ou pas potable. Et ce qui est vrai, du fait que ces services ne fonctionnent pas normalement, cela laisse craindre beaucoup de problèmes de qualité de l'eau. Et ça, nous avons constaté, notamment à Kinshasa, et même à travers le goût, vous allez voir les utilisateurs qui se plaignent que l'eau a un goût salé. Et déjà, lorsqu'on parle de la salinité, on voit la conductivité, et par là, on peut faire un lien avec la minéralisation de l'eau. Et donc, on peut s'attendre à ce que cette eau puisse contenir beaucoup plus de substances chimiques et qui peuvent être nuisibles à la santé humaine.
Bien.
Et nous...
Oui. Quelles sont les règles à respecter dans l'aménagement d'un fourrage? Voilà, vous voulez aménager un fourrage d'eau dans votre parcelle ou quelque part? Alors, quelles sont les normes à respecter? On en parle aujourd'hui avec le professeur Antoine Foumoué, expert en hydrologie. On va accueillir Thomas et Charles Kisimba. Thomas est à Bounia et Charles Kisimba à Lubumbashi. Thomas, bonjour.
Bonjour, monsieur Marcel, et bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre question par rapport au fourrage d'eau?
Merci pour la parole. C'est vraiment un sujet qui est à la une parce qu'on voit, même ici chez nous, ici, des forages qui naissent comme des champignons par-ci par-là, sans même tenir compte des normes quant à ces. Mais il est donc primordial de veiller d'abord au respect des normes, surtout lors de la construction des bornes fontaines d'eau. Ça, c'est un sérieux problème. On ne respecte pas les normes liées, par exemple, à la construction des bornes fontaines d'eau. Surtout, cela peut préserver la qualité de l'eau. Lorsqu'il y a déjà au début, là, les problèmes de construction qui posent un sérieux problème, vous voyez que ça
Thomas,
peut avoir
Thomas,
des répercussions, oui, même sur la qualité de l'eau, mais aussi sur la santé même de la population.
Thomas, quelle est votre, oui, quelle est la question que vous adressez à l'invité?
Oui, justement, je reviens. La question est de savoir, par exemple, quels sont les éléments clés à prendre en compte lors de la création d'une borne fontaine d'eau. Quels sont les éléments clés à prendre en compte lors de la création d'une borne fontaine d'eau? Et la deuxième question, quels sont les risques environnementaux associés au non-respect des normes de construction d'une borne fontaine d'eau? C'est peut-être ça les deux préoccupations que j'avais à l'inviter.
Bien, merci. Nous parlons aujourd'hui des bornes fontaines. Nous parlons plutôt des forages d'eau. Quelles sont les règles à respecter dans l'aménagement des forages? Charles Kisimba, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour. Charles, vous êtes en ligne depuis Lubumbashi. Oui, oui, on vous entend très bien. Alors, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux forages?
Merci beaucoup. Malgré ta cherté, néanmoins nous saluons l'avenir du forage. Et nous vous informons qu'à Lubumbashi, la vente d'eau du forage est devenue un commerce qui arrive à sauver d'ailleurs la population dans leur vécu quotidien. Voici maintenant mes petites questions.
Charles, avant de poser les questions, par exemple, Charles, Est-ce que vous avez une idée, par exemple, un bidon, vous avez dit qu'il y a un commerce qui s'est développé autour des forages. Un bidon de 25 litres, par exemple, peut coûter combien là-bas, Lubumbashi?
Oui, en tout cas, c'est d'un quartier à un autre. Dans les Niais, par exemple, un seul bidon nous coûte 100 francs congolais. 100 francs.
D'accord.
Mais au quartier évolué, en tout cas, ça dépasse les caprices des milliers. Maintenant, voici mes petites questions. Est-ce les mètres dits à la profondeur d'un puits dépend d'un endroit à un autre? La deuxième, par rapport à l'entretien, il faut combien de mois, cher invité? Car suis un témoin oculaire, j'ai vu les vers de terre y sortir dedans. En tout cas, ça nous a vraiment dégoûté et on s'est posé mille et une questions. Et la troisième, pour terminer, enfin, nous saluons l'émergence du forage, qui est comme un consolateur que Jésus nous a promis pour mettre fin à notre souffrance des siècles causée par la régie des eaux. En tout cas, sur ce, nous demanderons à ce que les prix puissent être quand même fixés à toutes les bourses pour que les Congolais puissent quand même se retrouver. Parce que c'est très cher vraiment, ce n'est pas tout le monde qui a cette possibilité-là d'y faire face.
Charles, voilà, quand vous dites que c'est très cher, combien ça coûte, par exemple, là-bas, Lubumbashi, pour aménager un forage d'eau?
Bon, comme c'est défini, je dirais une certaine concurrence. Il y a ceux-là qui commencent à 1000 dollars, 1200 dollars, 1500 dollars, et j'en passe. En un mot, il n'y a pas stabilité quant à ça. Parce que c'est devenu une concurrence. Il y a ceux-là qui affichent à travers les rues de la ville, forage d'eau moins cher, des choses comme ça pour l'air simple.
Pour attirer la clientèle.
Il n'y a pas un prix fixe pour
D'accord.
Oui, il n'y a pas un prix fixe.
D'accord.
En tout cas, oui.
Merci, on a compris. Professeur Antoine Foumou, vous avez la parole.
Merci beaucoup aux intervenants. C'est vrai, c'est un sujet d'actualité sur lequel l'État devrait se pencher afin de pouvoir mettre en place des normes, des régulations, que ce soit en termes de suivi de la qualité de construction que de fixation de prix de vente de l'eau. Je prends les questions que Thomas a posées. Quels sont les éléments clés à prendre? Nous avons parlé dès les débuts de type d'occupation de sol, donc les différentes activités que l'on peut retrouver dans l'environnement immédiat. Et donc, on devrait avoir le contrôle des différentes occupations, que ce soit en termes de toilettes, que ce soit en termes de déchets. Ce qu'il faudrait que dans l'environnement immédiat du point d'eau ou de la borne fontaine, qu'on ne puisse pas retrouver des éléments ou de sources qui seraient à la base de la contamination ou de la dégradation de la qualité de l'eau. Et donc, ce sont des mesures qui devraient être prises. Lorsqu'on parle de bornes fontaines, on doit bien construire des robinets qui doivent servir au puisage de l'eau. Et il faudrait qu'il y ait un minimum de soins qui puissent être mis en place pour assurer un bon assainissement du milieu. Tel qu'on le voit avec les sources qui sont aménagées. Donc, il faudrait que le propriétaire puisse mettre en place un minimum de mesures d'assainissement. Et cela devrait aussi être contrôlé par l'État. Et la deuxième question portait sur les risques environnementaux. Effectivement, si rien n'est fait, les risques sont énormes. Et ces risques vont se traduire par la contamination de l'eau souterraine. Et comme nous le savons, l'eau souterraine présente des caractéristiques spécifiques qui sont différentes avec l'eau de surface. Par exemple, en termes de circulation, l'eau souterraine circule à des vitesses très très faibles. Ce qui fait que s'il y a une contamination, cela va prendre énormément de temps pour que cette pollution puisse être évacuer de l'aquifère ou de la zone dans laquelle il y a eu de contamination. Et c'est pourquoi, dans le cadre de la gestion de eaux souterraines, on privilégie la prévention, puisqu'on sait bien que lorsqu'il y a de contamination, cela peut coûter énormément pour mettre en place des mesures de dépollution. Et donc, les risques peuvent se traduire à ce point-là et donc cela peut avoir aussi des conséquences sur la santé humaine lorsque les normes en termes de qualité ne sont pas respectées. Et des questions que Charles pose à partir de
Lubumbashi,
effectivement, de Lubumbashi. La profondeur à la nappe, elle varie d'une zone à une autre. Et donc, il y a des zones dans lesquelles on peut avoir de l'eau à moins de 50 mètres de profondeur, et dans d'autres endroits, on peut aller à plus de 100 mètres, voire au-delà. Et donc, la profondeur va varier, et c'est pourquoi il faut des études préalables pour pouvoir dire à quelle profondeur la nappe peut être retrouvée, et puisque c'est là un coût. La plupart des constructeurs fixent le prix en fonction du nombre de mètres, la profondeur qu'il faut atteindre la nappe. Et donc, on doit bien évaluer la profondeur à laquelle l'eau souterraine peut être retrouvée. Et cela varie d'une zone à une autre. En termes d'entretien, il a parlé de vers de terre qu'on a retrouvés. Ce qu'il faut savoir, l'eau souterraine provient de l'infiltration de l'eau de pluie. Et de manière générale, il est reconnu que l'eau souterraine est de bonne qualité. Et donc, ce problème pourrait venir soit de l'installation, normalement de l'installation, puisque le ver de terre, on ne peut pas le retrouver dans la nappe, puisque là, il y a le taux en termes d'oxygène sont très faibles, on ne peut pas vraiment le retrouver. Et donc, cela pourrait provenir du forage qui n'a pas été bien développé, ou alors du système d'adduction qui a été mis en place et qui n'est pas étanche et qui entraîne à ce qu'il y ait contamination. Donc l'entretien va dépendre aussi de l'utilisation. Mais au moins, il faut au moins un entretien chaque année pour pouvoir vérifier l'état de fonctionnement de votre forage. Et aussi, pour la régulation, c'est vrai, le prix varie. Et même ici, à Kinshasa, le prix varie d'un quartier à un autre. Et donc, c'est peut-être à l'État de pouvoir réguler le prix qu'il faut fixer. Puisque il est reconnu, tout homme a droit, doit avoir accès à l'eau. C'est un droit humain. Et donc, lorsque le prix entre en jeu, cela peut jouer sur cet accès à l'eau, et donc la plupart de la population ne pourra pas y avoir accès. Donc c'est à l'État de pouvoir réguler le prix.
Professeur, quel est à Kinshasa, ça coûte combien et quel est le service qui est habilité à aménager ces forages d'eau?
En fait, je ne sais pas s'il y a des services vraiment bien habilités pour l'État. Pour dans les milieux ruraux, c'est les services hydrauliques ruraux qui le fait. Mais actuellement, on trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont engagés, étant donné que ça rapporte, vu que la demande est élevée. Et donc, il n'y a pas, à ce que je sache à ce jour, des mesures, des régulations qui ont été prises, que ce soit en termes de prix à fixer. Si vous allez, par exemple, si je prends le cas pour Kinshasa, quand vous allez dans les quartiers, par exemple, de Mazalem, vous allez trouver que le bidon peut revenir, par exemple, à 100 francs, un bidon de 25 litres. Mais ailleurs, quand vous allez dans les quartiers comme ça, Longo et ailleurs, ça coûte beaucoup plus cher.
Non, je ne parle pas, professeur, je ne parle pas de ces prix-là par rapport aux vendeurs, à ceux qui vendent l'eau, mais plutôt par rapport à l'aménagement. Si, par exemple, quelqu'un veut avoir un forage chez lui à la maison, bon, combien il faut préparer, combien débourser pour cet aménagement?
Comme je le disais, le prix varie en fonction de la profondeur.
D'accord.
Et aussi de l'entrepreneur que vous, auquel vous faites appel. Parce qu'on voit maintenant, par exemple, des entrepreneurs qui le font de façon manuelle et pour eux, ça coûterait beaucoup moins cher que si vous appelez une entreprise qui doit venir avec des machines pour pouvoir vous construire un forage. Donc, les prix varient d'une entreprise à une autre et aussi en fonction, plus en fonction de la profondeur.
Bien. Alors, il y a un auditeur, un internaute qui nous a écrit Espoir de Kananga. Il dit un forage coûte plus de 1 500 euros car le marché se négocie à 28 euros par mètre. Nous avons deux sortes de forages, l'un d'utilisation domestique et l'autre pour l'industrie. Et si on fait le support tank et achat des tanks plus le pompage et toutes les pièces pour la plomberie, on arrive souvent à 8 à 9 dollars américains. Voilà, commentaire, c'est le commentaire d'un internaute et Espoir de Kananga. Professeur, votre réaction? Bon, on me fait signe qu'il y a, c'était le commentaire de quelqu'un d'autre et Espoir est plutôt en ligne. Bonjour Espoir de Kananga.
Oui, bonjour Marcel.
C'est plutôt jeudi. Bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire Espoir?
Oui, j'avais intervenu sur votre thématique de la journée qui est très pertinente. J'ai beaucoup apprécié ça et je vous remercie pour avoir choisi le sujet qui préoccupe toute la population de la République démocratique du Congo aujourd'hui, en particulier ici à Kananga. À Kananga aujourd'hui, nous avons des difficultés d'avoir une bonne eau que les gens peuvent boire, ou soit résoudre d'autres besoins qui demandent de l'eau. Mmh. Et il y a des gens qui viennent en aide pour construire des forages, comme vous avez bien épinglé. Les forages que les gens construisent posent beaucoup de problèmes parce qu'ils ne tiennent pas compte des conditions qu'il faut réunir pour construire un forage. Ils construisent des forages à 5, 10 mètres, voire 2 mètres
des installations
hygiéniques. Vous savez tous, oui, il y a toujours communication entre les installations hygiéniques ainsi que les puits qu'on construise pour les puits qu'on crée pour construire des forages. Mmh. Et cela pose beaucoup de problèmes, des difficultés énormes sur la santé des individus. En particulier, ils trouvent des pathologies hydriques comme étant de la fièvre typhoïde. Si vous parcourez les hôpitaux et les centres de santé ici à Kananga, c'est fréquemment la fièvre typhoïde ainsi que le paludisme qui est incriminé. Voir les maladies intestinaux ainsi que d'autres pathologies intestinales ainsi que d'autres maladies. Il faut beaucoup veiller sur ça et que nous demandons à notre gouvernement ainsi qu'à la présidence de la République de veiller beaucoup. Il faut condamner ces gens-là qui viennent chaque temps poser des forages sans toutefois réunir les conditions pour on ait une bonne eau ici à Kananga. C'est ça au moins mon observation.
Bien, merci Espoir de Kananga. Professeur Fumu, à vous la parole.
Et Marcel, effectivement, comme on le disait, le prix va varier d'un endroit à un autre, mais il y a un minimum, comme on le disait, c'est plus en fonction de nombre de mètres. La profondeur à laquelle on va retrouver cette eau que le prix est fixé. Et donc, le prix est fixé par mètre de forage. Donc, et cela varie d'une entreprise à une autre. Et ce qui vient de relever le non-respect de normes, effectivement, c'est à l'État de pouvoir mettre en place de normes et même arriver à contrôler les travaux de développement de forage. Il faudrait que à la fin du développement, l'entreprise puisse être en mesure de fournir un rapport technique devant permettre de voir comment est-ce qu'ils ont eu à réaliser le forage afin de pouvoir éviter les risques de contamination qui peuvent ressurgir par après. Et effectivement, il y a un problème lorsqu'il y a contamination. l'eau peut être à l'origine des diverses maladies. Il y a des maladies qui sont liées à l'eau, la diarrhée, et la fièvre typhoïde, comme il le dit. Et donc, du fait que le fourrage peut être dans un environnement qui n'est pas assaini, et donc, toutes ces sources de contamination vont entraîner à ce que la qualité de l'eau puisse être dégradée. Et donc, il faudrait que l'État puisse mettre en place de normes de régulation pour pouvoir assurer la qualité et aussi contrôler le prix qui est fixé lors de la vente de l'eau à la population.
Bien. Et la grande question de notre auditeur, Espoir de Kananga, c'est la communication entre la fosse septique, les toilettes, avec le puits d'eau. Ça, c'est des choses, voilà, qui, d'après lui, qui entraînent des maladies. Qu'est-ce qu'il faut concrètement faire pour éviter ces genres de communication, ces risques-là?
Effectivement, c'est pourquoi je disais qu'on doit définir une zone de protection rapprochée du fourrage.
Oui.
Et dans cette zone, toutes les activités devraient être contrôlées. Et donc, si on peut retrouver des toilettes dans cette zone, il faudrait que ces toilettes puissent répondre aux normes. Pas des toilettes directes où on n'a pas de fosse septique et cela peut être à la base de la contamination. Et donc, par exemple, dans les cas des études qui ont été menées, nous sommes arrivés à, comme je le disais avant, de mettre en relation les différentes activités réalisées sur la surface environnante dans la zone immédiate du point d'eau et le nitrate que l'on va retrouver dans l'eau souterraine. Et nous sommes arrivés, par exemple, à identifier quelles sont les sources potentielles de nitrate que l'on retrouve dans l'eau souterraine. Et la plus grande source est liée à ces qu'on vient d'évoquer, les eaux de boue, les toilettes, qui sont à la base de la contamination. Et pour le cas, par exemple, de Kinshasa, vous allez remarquer que les cours d'eau qui drainent la ville sont transformés en égouts à ciel ouvert. Et donc, il n'y a pas que les toilettes, mais lorsqu'il peut y avoir interaction ou échange entre l'eau souterraine et l'eau de surface, cela peut être aussi à la base de la contamination. Donc, il faudrait qu'on ait un contrôle des activités qui sont menées dans l'environnement immédiat du forage, afin de pouvoir limiter les risques de contamination et de pollution.
Bien. Alors professeur, quelles sont les différentes étapes ou les différentes parties du système d'adduction d'eau pour un forage? Quelles sont les différentes parties qu'on retrouve
Lorsqu'on fait le forage, c'est un trou qu'on va creuser et on atteint la nappe. On va mettre en place une tuyauterie. Et j'ai aimé l'intervention de notre ami de Lubumbashi. Il a parlé de la masse filtrante. Donc, vous avez un tuyau et ces tuyaux, à l'endroit où on a la nappe, on a comme un système de filtrage qui permet à ce que l'eau puisse entrer dans la tuyauterie afin d'être aspirée par la pompe. Donc, on a la tuyauterie qui sert de pouvoir accumuler de l'eau, et cette eau est ramenée à la surface à l'aide d'une pompe. Et c'est cette pompe qui amène l'eau à la surface, et cette eau peut être accumulée dans un réservoir. Et c'est donc à travers ces réservoirs qu'on peut mettre en place un réseau d'adduction à des bornes de fontaine au travers lequel la population pourra puiser de l'eau pour ses besoins. Voilà brièvement les différentes parties que l'on peut retrouver. Et au-delà de ça, il faut une source d'alimentation puisque la pompe va être alimentée afin de pouvoir fonctionner et remonter de l'eau à la surface.
Donc ça peut fonctionner avec un groupe électrogène ou avec l'électricité, le courant de la SNEL. Allô, professeur?
Je n'ai pas bien suivi.
J'ai dit, le réseau peut fonctionner avec un groupe électrogène ou avec le courant de la SNEL.
Avec le groupe électrogène, avec le courant de la SNEL ou même avec des panneaux solaires. qu'on peut avoir des systèmes comme ça qui peuvent marcher ou qui peuvent combiner les trois sources
d'énergie. Bien, on va accueillir Bidoya Dekoloizi. Nous parlons aujourd'hui de l'aménagement des forages d'eau. Quelles sont les règles à respecter? Bidoya, bonjour.
Bonjour, bonjour, Capi Service.
Bien, coucou à tous les auditeurs qui nous écoutent de Kolwezi. Manika Dilala, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au sujet du jour?
Oui, par rapport à la sujet d'aujourd'hui, je voulais d'abord remercier d'avoir invité. Une chose, d'abord qu'on se demande un peu, parce que ici chez nous, au Rappel Golf, ici, au Kolwezi, quand on attendrait d'abord des croix d'abord, le forage d'abord, ici chez nous, d'abord, quand vous voyez, lorsqu'on est en train de forer de l'eau, c'est presque dans 20 minutes, et dans 20 mètres plutôt, on est en train de forer de l'eau. Mais après, pendant la période sèche, comme on est ici à ce mois d'ici, mais on voit de l'eau, ça devient très difficile. Alors, la sujet que d'abord, nous voulons d'abord faire demander à notre invité, c'est le problème de la l'extraction ou bien c'est les problèmes de l'ingénieur qui donne le moyen de traiter de l'eau ou bien c'est nous qui sommes en train de consommer de l'eau mauvaise. Parce que d'abord, pour le moment, ici, dans notre quartier box, on ne voit plus encore les régies des eaux. On ne voit plus encore.
Merci Bidoya qui nous dit que pendant cette saison sèche, l'accès à l'eau, il y a des forages d'un mètre. Pendant la saison sèche, il n'arrive plus à voir, il n'y a plus de disponibilité d'eau. Dans ces forages. Professeur, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Merci Bidoya pour la question. Effectivement, c'est tout ça, ça fait partie des études préalables qui doivent être menées. Parce que c'est au travers des études qui doivent être menées en amont avant la construction du forage que l'on va connaître la capacité de la nappe qui doit être captée. Si c'est une nappe superficielle, c'est tout à fait normal que on puisse avoir de l'eau pendant la saison de pluie, puisque l'alimentation est assurée à travers des précipitations, mais que pendant la saison sèche, le puits puisse s'assécher. Et c'est tout à fait normal. Et ça, c'est lié à la profondeur. Donc, les constructeurs n'ont pas atteint la nappe, mais ils se sont limités à la nappe phréatique qui est superficielle et dont le rendement dépend de la saisonnalité. Et donc ça, ce sont des paramètres qui devraient être contrôlés dès les départs, avant la construction du forage. Et donc savoir quelle est la nappe qui devra être acceptée, captée, afin d'être rassuré d'avoir de l'eau en permanence. Et donc ce que je voulais aussi revenir, c'est que en termes de gestion, on doit aussi connaître la quantité d'exploitation. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Si nous voyons la plupart de ceux qui vendent de l'eau, on n'a pas un système de contrôle, on ne sait pas quelle est la quantité d'eau qui est prélevée chaque jour. Or, en termes de gestion, on devrait bien avoir de chiffres, arriver à contrôler la quantité, afin de pouvoir faire un lien avec la capacité de recherche de la nappe, afin de pouvoir contrôler et savoir quelle est la quantité qui doit être prélevée chaque année ou chaque jour par chaque utilisateur, afin de pouvoir éviter aussi de problèmes d'assèchement. Mais pour le cas qui vient d'évoquer, cela est lié à la saison, c'est que il s'agit d'une nappe superficielle qui s'assèche pendant la saison lorsqu'il n'y a pas de précipitation, mais que l'eau va revenir lorsque la pluie va reprendre. Donc, il faudrait s'y rassurer lorsqu'on doit construire, on doit développer un forage, que la nappe qui sera captée puisse être en mesure de pouvoir approvisionner en eau toute l'année et non pas dépendre en termes de saison.
Bien, on va terminer avec la question d'Elvis de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Joly.
Quelle est votre préoccupation, Elvis?
Ouais, je vous ai suivi depuis le début et il y a une question que l'un de nous avait posée, mais je n'ai pas bien suivi. Pour les forages,
oui.
Ça doit prendre combien de temps pour la nettoyer, pour qu'il y ait la propreté et d'aider Est-ce que c'est probable qu'on puisse boire ces eaux? Bah, j'ai pas compris bien la suite, parce que vous avez remarqué dans plusieurs sites de cela, ça fait beaucoup de la boue. Alors la propriété, est-ce que c'est là aussi dit aussi que cette eau peut être consommable ou non? C'est voilà ce que je voulais savoir.
Vous parlez de la boue, d'où vient cette boue là?
Peut-être pas la malutilisation des robinets, peut-être comme chez nous, parce que je donne un exemple ici chez nous au Batende, parce qu'avec la chute des eaux, nous recevons seulement de l'eau à 0 heure ou 1 heure. Bah, maintenant, pour l'utiliser, c'est difficile, nous utilisons seulement que de l'eau de forage. Mmh. Alors nous avons une qui est proche de chez nous, mais si vous voyez seulement comment cette eau sort de la façon où nous concevons ces eaux, peut-être ça peut vous donner le dégoût de les consommer ou de ne pas les consommer. Alors, nous utilisons souvent ça pour la préparation des aliments,
pour laver les vêtements,
la vaisselle et tout ça.
Mais pas pour boire.
Alors, pour me rassurer, est-ce que vraiment, avec la nappe qu'ils ont conçue, est-ce que c'est probable que nous pouvons consommer? Est-ce qu'il y a des services qui sont habilités de contrôler, de fiabiliser les eaux que les gens peuvent consommer ou ne pas les consommer?
Merci Elvis de Kinshasa. Vous êtes dans quel quartier, vous avez dit?
Non, je suis à Matete, dans le quartier Batende.
Batende à Matete, merci. Professeur Fumu, vous avez la parole.
Oui, en fait, merci Elvis. En fait, le temps de nettoyage va dépendre d'un forage à un autre, et donc de la manière dont les réseaux d'adduction a été développé. Si déjà à la base, vous mettez en place des systèmes de filtration, cela peut assurer. Mais comme je le disais, il faut au moins chaque année faire un ou deux nettoyages afin de pouvoir vous rassurer de la qualité du réseau d'adduction d'eau. Et le problème qu'il évoque, la présence de la boue, donc je pense que cela pourrait être lié au mauvais développement du forage. Notre ami de Lubumbashi nous a parlé de la mise en place d'une masse filtrante autour de la zone des crépines. Et ça, ce sont des aspects qui ne sont pas très souvent respectés par ceux qui font de forage manuel. Donc, cela pourrait être dû à l'infiltration de la boue, de sable dans le puits. Et ces sables est aspiré par la pompe et on peut retrouver cela dans les systèmes d'adduction. Donc, c'est le mauvais développement du forage qui serait à la base de la présence de la boue dans les systèmes d'adduction. Et du fait qu'il y ait présence de la boue, cela aussi réduit la durée de vie de la pompe. Et donc, vous allez voir la pompe qui tourne après 2-3 mois et elle est grillée. Et donc, ça, c'est du fait du mauvais développement. Et pour ce qui est de la potabilité, on ne peut être rassuré qu'une eau est potable que lorsque les analyses sont réalisées. Et il y a des institutions qui sont habilitées pour pouvoir réaliser les analyses de qualité de l'eau. Et c'est après analyse que l'on va dire que l'eau est propre pour la boisson ou pas. Et donc on ne peut pas d'office dire que lorsqu'il y a un forage, cette eau est potable ou pas. Il faudrait qu'il y ait des analyses qui soient effectuées au préalable.
Bien. Professeur Antoine Nfumu, je rappelle que vous êtes expert en hydrologie. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour parler de l'aménagement, des règles à respecter dans l'aménagement des forages d'eau. Excellente journée, professeur, et à la prochaine.
Merci beaucoup et merci à tous les intervenants. Et c'était très riche. Merci.
Bien, tout à l'heure, dans la deuxième partie de cette émission, nous allons aborder un autre thème. Comment surmonter les épreuves de la vie, les coups durs de la vie, voilà, choc à vie, comme certaines personnes le disent en lingala. Il y a des chocs, que vous le vouliez ou pas, vous pouvez connaître des difficultés dans la vie. Alors comment arriver à les surmonter? On en parle à partir de 11h05, heure de Kinshasa. Il est 11h à Kinshasa.